Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Comme tous les mercredis, on se retrouve en direct pendant une heure pour parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Nos invités du jour, Abdel Aziz El Jawari, président du CEMI, le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines. Il nous parlera notamment des actions de la communauté musulmane des Yvelines suite aux attentats qui ont frappé le pays ces derniers jours. Avec Maria Diaz-Munoz, notre seconde invitée, de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines, nous parlerons du défi énergie qui débute en décembre. L'objectif, vous faire baisser votre consommation d'énergie d'au moins 8%, c'est pas mal ça. Dans Marmite fait son actu, retrouvez quelques-unes de vos chroniques préférées. Actu yvelinoise avec Caroline qui nous expliquera en quelques mots comment fonctionne un département, voilà, à quelques mois des futures élections départementales. Dans la minute consommation de Pierre Joannet à 17h45, Pierre nous parlera du dispositif de la CAF concernant les paiements de pensions alimentaires non effectués. Le flash d'actu local aux alentours de 17h20. On écoute un morceau musical et on revient juste après avec notre premier invité. A tout de suite. Ibrahim Malouf. Marmite fait son actu, 17h passé de bientôt 6 minutes. Vous écoutez bien sûr votre émission du mercredi de 17h à 18h en direct. On vous parle de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs sur le 88.4. Et oui, en direct jusqu'à 18h. Bon, c'est le confinement, c'est difficile, c'est très difficile. On va tous s'en sortir, tous ensemble. Tous ensemble ou sinon c'est personne, hein, d'accord ? Allez, on accueille notre premier invité. Abdelaziz El Jawari, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs.
Vous êtes président du CEMI, donc le Centre d'études et d'initiatives musulmans des Yvelines. Le pays a connu des événements tragiques ces derniers jours avec le meurtre de l'enseignant Samuel Paty et plus récemment l'attentat de Nice dans la basilique Notre-Dame de Nice. Une première réaction peut-être à cet attentat perpétré au sein d'une basilique ?
C'est l'horreur absolue, tout simplement. On peut d'aucunement associer ce massacre à une spiritualité, ou une religion. On ne peut pas s'attaquer à des personnes qui accomplissaient leur rite paisiblement dans une maison de Dieu et de dire qu'au nom de Dieu, on va aller les massacrer. Donc là, c'est de la folie pure et ça ne peut être justifié d'aucune manière. Et donc, je pense que ce deuil, nous le portons également en tant que porteurs d'un message spirituel, même si c'est des catholiques, des chrétiens qui ont été touchés. Je pense que ça a touché toutes les familles de croyants et bien au-delà, indépendamment d'ailleurs de nos religions.
Après l'attentat contre l'enseignant de Conflans-Sainte-Honorine, donc Samuel Paty, vous avez rencontré des enfants, vous, dans des mosquées, afin d'évoquer avec eux le sujet des caricatures. Alors, quel était le but global de cette rencontre ? Et est-ce que c'est une chose qui s'est faite aussi dans d'autres mosquées ?
Premièrement, en fait, ce type de rencontre et d'ateliers de parole avec les jeunes et les moins jeunes, ils ne sont pas spécifiques juste à des moments post-drame comme celui que nous avons vécu à Conflans-Sainte-Honorine. Donc, oui. C'est un exercice que nous faisons régulièrement sur un certain nombre de thèmes, de sujets qui reviennent régulièrement. Donc si ça a été mis en lumière cette fois-ci parce qu'il y a eu un contexte dramatique, malheureusement, qui l'a mis en lumière. Et bien, en effet, donc le but, c'était par rapport à cette actualité, premièrement d'avoir un atelier de parole avec les enfants et de libérer la parole et de circonscrire les faits, et deuxièmement de donner à cette jeunesse des repères à la fois sur le plan spirituel et sur le plan de la longue histoire musulmane, pour justement faire le tri dans tout ce qu'ils peuvent entendre, voir ou absorber sur les réseaux sociaux ou autres. Donc ces discussions, ces échanges ont été féconds, très riches, à la fois, contrairement aux apparences, donc les enfants ou les jeunes avaient leur propre réflexion sur ce sujet, parce qu'ils ont été secoués par ce drame. Mais en effet, au-delà d'être horrifiés par un acte, ils avaient besoin... par rapport à ce qu'ils peuvent entendre par ailleurs, ils avaient besoin de repères, ils avaient besoin de références, ils avaient besoin d'étayer, de transformer un ressenti en une conviction avec des références.
Et c'est quelque chose qui est compris par les plus jeunes notamment, hein, qui pourraient voir dans une caricature, par exemple, quelque chose qui est au premier degré, et voilà, et on sait que le second degré, ça prend pas quand on est vraiment jeune. Voilà, c'est des notions qui sont apprises un petit peu plus tard dans le parcours scolaire. Voilà, il y a quand même une compréhension par rapport à ça.
En effet, parce que le propos était de dire c'est tout à fait normal qu'en tant que croyant, que pratiquant, que musulman, qu'on puisse être heurté par un certain humour qui va toucher à des fondamentaux, au prophète ou à la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, ça ne donne pas le droit, justement, de commettre, en tout cas de faire usage de la violence ou d'aller jusqu'au meurtre sur ces questions. Et si on revient à notre propre histoire, y compris au vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des choses qui ont déjà été vécues. Donc c'est pas un phénomène nouveau. À l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de son vivant, a été caricaturé plusieurs fois, et même de manière très violente. Certes pas par des dessins, parce que c'était pas la forme artistique la plus répandue en péninsule arabique, mais par la poésie, une autre forme artistique. Et donc il y a eu des grands poètes de cette époque qui ont caricaturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était intéressant d'observer quelle a été l'attitude du professeur Aslam sur ce sujet, et que justement, il n'y a pas eu d'appel au meurtre. Et donc même certaines personnes de la communauté qui étaient horrifiées par ces poèmes demandaient l'autorisation au prophète de s'en prendre à ces personnes, ce qu'il a refusé. Et justement, donc il les a incités à avoir le même canal d'expression. Et puisque eux, ils avaient fait des poèmes, vous n'avez qu'à faire des poèmes dans l'autre sens. Il avait même donné sa cape à un des poètes qui avait fait un poème contre lui et qui avait peur pour sa vie. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait enveloppé de sa cape en signe de protection. Donc ça a été l'attitude et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on doit revenir à nos sources, on doit revenir à nos fondamentaux en la matière. Et justement, et dans une société saine, même cette différence de point de vue doit plutôt nous amener au dialogue, doit plutôt nous amener à échanger, à essayer de se comprendre les uns et les autres, et sûrement pas à être sur une arène de violence, de meurtre. C'est des attitudes et des comportements qui sont loin de tout référentiel spirituel.
Alors pour nos auditeurs, nos auditrices qui ne comprendraient pas forcément, quand vous citez le prophète, vous y ajoutez une petite phrase en arabe, voilà, c'est une phrase de déférence à l'égard du prophète, c'est ça ?
Oui, exactement, voilà. Ça veut dire tout simplement paix et bénédiction sur lui, en effet, vous avez raison de le souligner.
Voilà, pour que nos auditeurs, nos auditrices puissent comprendre. Alors justement, puisqu'on parlait du prophète, c'est selon la tradition musulmane l'anniversaire de la naissance du prophète qui est, selon les sources, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer dedans, en tout cas qui est un anniversaire qui est fêté, qui devrait être fêté actuellement. Il avait été prévu d'être fêté dans des mosquées notamment ou dans d'autres endroits vendredi, si je ne dis pas de bêtises, jeudi, vendredi et samedi, ou vendredi, samedi et dimanche, vous allez me corriger. Et finalement, le CFCM, le président du CFCM, a demandé la fermeture des mosquées dès ce jeudi suite à l'attentat de Nice et l'annulation des fêtes du Maoulid qui étaient prévues donc pour ces 3 jours. Un commentaire sur cela ?
En fait, à titre personnel, moi, je comprends les craintes du CFCM et elles ont leur légitimité.
Le Conseil français du culte musulman, oui, tout à fait.
Le français du culte musulman, parce qu'on craint des attaques sur des lieux de culte, la tension, elle est à son maximum. Mais on s'est permis quand même de réfléchir autour de cette question. Et on est un certain nombre de lieux de culte qui n'ont pas forcément adopté cette ligne.
D'accord.
Parce que, par exemple, la mosquée de Mantes-la-Ville que je préside, nous tenons les offices jusqu'à dimanche, conformément aux annonces du gouvernement. Et apporter notre soutien à la communauté catholique, à nos amis chrétiens, en ces moments difficiles, dans ce deuil terrible, on a opté plutôt pour une autre solution, c'est-à-dire qu'on a invité les autorités religieuses locales pendant la grande prière du vendredi.
D'accord.
Nous avons pris la parole ensemble devant les fidèles sur cette situation tragique et sur la nécessité de serrer les rangs et de continuer de renforcer le travail ensemble et la confiance ensemble. Et ça nous a semblé un message beaucoup plus fort que juste on ferme nos lieux de culte. Alors que si la communauté catholique avait pris cette initiative de fermer ses lieux de culte, je pense que le message de fermer nos mosquées aurait été audible. Mais dans un cas de figure où la communauté chrétienne justement a insisté pour maintenir les églises et les paroisses ouvertes, je pense que notre message peut être très mal compris et peut être interprété comme une façon de ne pas prendre nos responsabilités.
D'accord. D'ailleurs, je renvoie tous les auditeurs, toutes les auditrices à l'intervention de la sœur du père Hamel, qui avait été tué justement égorgé dans son église. Eh bien, je renvoie les auditrices, les auditeurs hein, dans un contexte vraiment de libération de la parole nauséabonde, hein, si on peut utiliser ce terme ou d'autres, et de division. Voilà, c'est vraiment un message d'appel, notamment à destination des musulmans par rapport à ce qui s'est passé. En tout cas, c'est un message que je conseille aux auditeurs, aux auditrices d'aller voir.
En effet, et si je peux me permettre, c'est qu'en ces temps difficiles et troubles, les responsables religieux des différents cultes doivent se saisir de ces questions et de ce débat. Il ne faut surtout pas laisser aux politiques, juste aux seuls politiques, parce que le politique, il a d'autres agendas électoraux et autres, et on assiste en ce moment à un concours Lépine à nauséabonde sur sur la situation des législations d'exception et toute autre ouais. proposition farfelue qui vont faire que mener le pays dans le mur. Et c'est pas ça dont nous avons besoin. Je pense que les femmes et les hommes de ce pays qui portent une spiritualité, telle qu'elle soit d'ailleurs, doivent se saisir de ces questions. Et on doit avoir des discussions franches. Je pense que c'est nécessaire. Nos amis chrétiens sont heurtés par ce massacre qui est d'une violence inouïe. Et je pense que nous, les musulmans, en effet, nous ne pouvons ni accepter, ni justifier, ni à se justifier par rapport à ces actes criminels. Cependant, le fait qu'on ait un tas de criminels qui vont se revendiquer dans notre spiritualité pour commettre ces meurtres doit aussi nous interroger, ouais. doit aussi nous faire réfléchir par peut-être qu'on a loupé quelque chose, qu'on a raté quelque chose, peut-être dans nos méthodes, que ça soit
De transmission, d'éducation.
De transmission, est-ce qu'il y a des failles. Donc je pense qu'il serait sain, il ne faut pas se mettre ni dans la position de la victime, ni de la position on n'a rien à voir là-dedans. Voilà, je pense qu'il faut avoir une position de sagesse sur ces questions et qu'on doit avoir un dialogue franc avec nos amis, des différentes spiritualités d'ailleurs, ou avec la société civile tout simplement, ou les responsables élus au service de l'État sur ces questions.
La dernière fois, Abdelaziz Al-Jawahiri, que vous êtes intervenu sur Marmite FM, c'était à l'occasion du confinement, le confinement du mois de mars, avril. Là, c'est reparti encore hein, avec le confinement, notamment les lieux de culte, alors qu'ils ne sont pas fermés, qui restent ouverts. Mais voilà, il n'y aura plus de célébration ou de la prière du vendredi. Voilà, ça va. Je ne sais pas d'ailleurs si la prière du vendredi peut se faire dans des conditions. Avec des restrictions ou est-ce qu'elle va être impossible de le faire. Ça, vous allez nous le dire dans quelques instants. Mais voilà, dans quel état d'esprit vous allez aborder encore ce confinement avec des fidèles qui sont attachés à leur lieu de culte.
En fait, en effet, donc le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures, et dont l'exercice du culte pendant cette période de confinement. Donc à partir de lundi prochain, le 2 novembre, les lieux de culte restent ouverts, mais par contre, les cérémonies collectives ne peuvent plus avoir lieu.
D'accord.
Donc, pour ce qui nous concerne, ni les prières quotidiennes, ni la prière du vendredi d'ailleurs. Mais par contre, les gens individuellement peuvent se rendre à la mosquée pour prier, lire le Coran, ou tout simplement avoir un moment spirituel, donc il n'y a rien qui l'interdit. Il y a deux exceptions à cela, donc les prières funéraires, donc Salat al-Janaza, les prières funéraires, on a le droit de les organiser collectivement avec D'accord. un seuil de 30 personnes, et les mariages, pour ce qui nous concerne, donc les mariages religieux, avec un seuil de 6 personnes.
D'accord.
Donc ces deux cérémonies, on peut les organiser collectivement avec en respectant les seuils en question. Cependant, nos lieux de culte, nos mosquées, on ne peut pas les résumer juste à des lieux de prière, ouais. Parce qu'il faut qu'on apprenne, il y a déjà beaucoup de mosquées qui le font, à en faire des lieux d'utilité publique. Et pendant ces moments de confinement difficiles pour un certain nombre de familles, sur le plan matériel, alimentaire et autres, c'est le moment de consacrer ce temps et cette énergie justement à apporter l'aide nécessaire à ceux qui en ont besoin. Il y a des maraudes, il y a des des distributions alimentaires. Il y a un certain nombre de personnes seules, isolées, que ce soit des personnes âgées ou des personnes malades, handicapées et autres. Donc on peut orienter notre temps, notre effort, notre solidarité vis-à-vis de toutes ces personnes qui en ont besoin. Et je pense que ça serait salutaire que juste de fermer nos lieux de culte et de rentrer chez nous.
Mmh. Abdelaziz El Jawari, merci. Je rappelle que vous êtes président du CMI, donc le Centre d'études et d'initiatives musulmanes des Yvelines. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Mmh. 17h passées de 20 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, tout de suite, c'est l'heure du Flash Actu. Une cinquantaine d'enseignants du collège La Vaucouleurs et du lycée Claudel de Mantes-la-Ville étaient rassemblés ce matin, juste avant l'accueil des élèves. La raison de leur colère, un protocole sanitaire au rabais. Trop d'élèves dans les classes, les cantines surchargées ou encore l'absence de GL. Impossible à gérer selon les syndicats. Information concernant les municipales 2020 à La Verrière. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours de l'ancienne maire de La Verrière, Nelly Dutu. Un recours visant à annuler le second tour des élections municipales. Pas de championnat d'Europe pour les cinq continents. La Fédération française de cyclisme l'a annoncé hier. En cause, la crise sanitaire. Les coureurs et les coureuses de l'équipe de France, notamment des cinq continents, devaient se rendre en Bulgarie du 11 au 15 novembre prochain. Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Allez, on va marquer une pause musicale avant de revenir et de retrouver notre second invité. A tout de suite.
Cette nuit, la lune est pâle. La mer est calme et protège un ange. Un ange. Une fragile petite étoile. Et toute fripe et son thé de phalange. Échoué sur une plage étrange, poisson rouge. Rouge, 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 rouge. Et tout le monde te regarde, mais personne ne bouge. Rouge, 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 rouge. Poisson étrange, poisson étrange, poisson étrange. Je te demande pas, pas, pas. Poisson étrange, poisson étrange, poisson étrange. Parle, parle, parle. C'est pas le vieil homme et la mer. C'est la mer sans sa chair qui pleure.
Qui pleure, qui pleure, qui pleure.
C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui monte le monde qui meurt. Sur une plage étrange, et tout le monde te regarde, mais rien vraiment ne bouge. Poisson étrange, poisson étrange, poisson étrange. Je te demande pardon, pardon, pardon. Poisson étrange, poisson étrange, poisson étrange. Pas, pas, pas.
Billy, 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 y'a du blood dans the leaves. Rimbaud, 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 enfant, bateau ivre. L'air à l'air à l'air à l'air, à quitte le navire. Et c'est la vie, la vie, la vie, la vie qui chavire. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? C'est oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tout ce qu'on n'a pas fait. Qui vous a mis là? Père ou père ou père ou mercure et or. C'est nous, c'est nous, c'est nous qui vivons là. Noyés dans le confort, y'a plein de corps là dehors. À l'assaut des mers encore, conquistador. Air irrespirable, comme la poussière de mort. Je suis coupable, innocent et le sort. La tête dans le sable, on dirait que tu dors. Petit Island, mon bébé, t'as eu tort. T'es né du mauvais côté de l'enfer, du décor. Du mauvais côté du mur, comme un enfant de Galkia. Tu rentres chez toi, la croix du trône est sur toi.
Poisson étrange,
This is la paix sur les ondes de Marmite FM 88.4. Vous écoutez Marmite fait son actu. Comme tous les mercredis de 17h à 18h, nous vous donnons l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs sur le 88.4. Allez, tout de suite, on accueille notre second invité.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Maria Diaz-Munoz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission énergie et animation à l'ALEC, donc l'agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes avec nous pour nous parler notamment du défi énergie qui va commencer le 1er décembre. Alors d'abord, en quoi consiste le défi énergie ?
Alors, le défi énergie, c'est un concours d'économie d'énergie et d'eau. L'objectif principal est de mobiliser le grand public sur les économies qu'on peut faire au quotidien et sans que cela ne coûte rien. Donc voilà, c'est une façon de mobiliser des façons concrètes et efficaces pour diminuer les consommations, réduire ses émissions de CO2 et gagner de l'argent.
Et justement, oui, on parle de quelle énergie quand on parle du défi énergie ?
C'est l'électricité pour l'énergie, pour les appareils, ce qu'on dit électricité spécifique.
D'accord.
Et gaz, fuel ou bois. Après, ça dépend le type d'énergie qu'on utilise pour chauffer.
Alors du coup, quel est l'objectif de ce défi énergie ?
Alors, l'objectif principal, c'est de réduire leur consommation d'énergie de 8%. Uniquement en faisant de petites gestes, voilà, sans perdre en confort et sans utiliser de l'argent. On sait que ça va être uniquement avec des habitudes quotidiennes qu'on va apprendre, qu'on va essayer d'adapter et les intégrer chez nous pour toujours. Donc toujours vers une sobriété, mais comme j'ai dit tout à l'heure, sans bannir au confort. Voilà, bah oui, alors on participe en équipe, ça c'est aussi très important.
Et justement, c'est ce que j'allais vous demander, comment on participe à ce défi. Voilà, est-ce que c'est ouvert aussi à tous les Saint-Quentinois, toutes les Saint-Quentinoises ?
Tout à fait, c'est ouvert à tous les habitants du centre sud des Yvelines, donc notamment toutes les personnes qui habitent à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on participe en équipe. En équipe, c'est un ensemble des foyers. L'idéal, c'est entre 5 et 10 foyers. Donc chaque équipe, il va être représenté par un référent, un capitaine, et ça peut être des équipes, voilà, ça peut être des foyers entre voisins, entre collègues, vos amis, les membres d'une association à laquelle vous êtes adhérent, voilà. Donc l'ALEC va fournir à chaque équipe d'un kit énergie avec des instruments de mesure, comme un hygromètre, un thermomètre, un wattmètre qui va permettre de calculer les consommations d'énergie, le taux d'humidité. On va aussi fournir d'un guide à chaque participant, un guide des éco-gestes. Et on va leur accompagner dans toute la démarche avec des lettres d'information régulières, un suivi technique, des formations, des animations. Donc voilà, l'idée c'est que leur motiver, leur dire qu'à notre échelle, c'est peu, mais massifié, ça devient conséquent.
Alors, combien de temps dure justement ce défi énergie ? Il commence le 1er décembre, c'est ça ?
Oui, tout à fait, il commence le 1er décembre et il finit le 30 avril. Donc, c'est pendant 5 mois. Ils vont être accompagnés par l'ALEC. Alors, j'ai pas dit, ce défi, en fait, pour participer, il faut s'inscrire sur le site Défi Déclic.
Oui.
Défidéclic.org. Il faudra créer un compte d'abord et ensuite vous pourrez trouver le défi, vous renseignez votre code postal et le défi énergie il va apparaître.
Voilà, donc défi déclic, ou sinon vous tapez défi déclic sur un moteur de recherche, défi déclic 50 en Yvelines, vous tomberez directement sur ça.
Sur ce défi.
Alors, vous le disiez, Maria Diaz-Munoz, c'est 8%, c'est l'objectif de réduction d'énergie, hein, que ce soit dans le foyer, voilà, principalement dans le foyer. Alors, qu'est-ce que vous avez des chiffres, voilà, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y en a qui arrivent à faire mieux, d'ailleurs, peut-être, que 8%?
Tout à fait. En fait, à niveau national, la moyenne, c'est de 12% d'économie d'énergie.
Ah oui.
Ça représente 200 euros par an. Et même en économie d'eau aussi, c'est environ 13%. Donc, depuis 2008, ce défi des clics remplace l'ancien défi famille énergie positive. C'est la même formule, mais avec une plateforme numérique un peu différente. Donc, à savoir, sur les Yvelines, oui, la moyenne, elle est toujours entre 8-9% d'économie réalisée. Alors l'année dernière, c'est vrai que pour l'édition dernière avec le confinement, ça a été un peu chamboulé parce qu'on a passé beaucoup plus de temps chez nous, donc c'était difficile de faire des économies parce que voilà, on était 24 heures sur 24. Donc, mais quand même, on a réussi et il y a eu 7% d'énergie économisée pour l'édition précédente.
Voilà, donc vous le voyez, même si l'objectif de la LEC est de 8%, voilà, il y a les 50 Inois, et plus globalement, comme vous l'avez dit, au niveau national, qui arrive vraiment à réduire quand même, et puis même au niveau du portefeuille, ça fait du bien. Au-delà de faire du bien à la planète, ça fait également du bien au portefeuille, jusqu'à 200 euros de réduction de charges, c'est pas mal, surtout en ces temps, en ces temps difficiles. Alors, Maria Dias Munoz, il y a le défi zéro déchet qui a commencé. C'est un autre défi que vous avez lancé, qui a commencé le 14 septembre. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être rappeler aux auditrices, aux auditeurs, en quoi consiste ce défi zéro déchet ?
Oui, alors le défi zéro déchet, c'est pareil, c'est un concours, c'est un défi dont l'objectif, c'est de réduire le poids de notre poubelle. Ce défi, il dure 3 mois. Il démarre en 14 septembre et va finir le 29 novembre. Et les participants sont accompagnés aussi par la LEC et d'autres associations partenaires du territoire pour commencer à développer une nouvelle vie zéro déchet. Donc, tout au cours du défi, il va y avoir des animations, d'ateliers proposés par les associations partenaires et aussi par la LEC. À savoir que c'est un défi qui marche très très bien. Bon, on le voit par rapport aux résultats et les participants, le nombre de participants.
D'ailleurs, ils ont augmenté par rapport à l'année dernière ?
Non, on a resté similaire. L'édition dernière, on avait 190. Bon, cette année, on a 180.
Donc il y a quand même 195 familles qui participent à ce défi.
Ouais. Oui, oui, oui. Le défi, il a deux périodes. Il y a une première période des références dont les gens vont peser leur poubelle sans changer leur habitude pour avoir un constat. Et ensuite, il y a la période des changements où là, ils vont mettre en place tous les gestes appris au cours de tout défi.
Il reste encore un petit peu de temps parce que c'est jusqu'au 29 novembre. Alors, qu'est-ce qui va être fait là d'ici au 29 novembre ? Vous continuez de les accompagner, bien sûr ?
Bien sûr, et il y a beaucoup d'ateliers, d'animations proposées, dont notamment des ateliers faire soi-même, des produits de ménage, des produits cosmétiques, des répars cafés. Il y en a beaucoup, des petits ateliers répars cafés, notamment à Trappes. Je pense qu'il y a pas mal d'activités qui se mettent en place. Et il y aura une rencontre des clôtures qui aura lieu un samedi, le samedi 5 décembre à midi. Et on va partager un repas zéro déchet, on va faire un petit bilan de défi, si c'est possible, de le faire en présentiel.
Vous retrouverez toutes les indications, les informations sur le site de l'ALEC, www.alecski.org, ALEC, donc A-L-E-C, 50 ans en Yvelines, S-Q-Y, donc alecski.org. Merci beaucoup, Maria Dias Munoz.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes chargée de mission énergie et animation pour l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au revoir.
Au revoir, merci.
Marmite fait son actu. Vous nous retrouvez comme tous les mercredis de 17h à 18h en direct pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Allez, dernière pause musicale dans notre émission et on revient juste après pour parler du département et comment ça marche un département, à quoi ça sert surtout, et également faire un petit tour avec Pierre Joannet du côté de la CAF et des pensions alimentaires. Tout de suite.
Pourquoi lui, pourquoi pas moi? cette question te tiraille. T'es jaloux, c'est plus fort que toi. Là, c'est tes démons qui gagnent. Et quand l'un d'eux se met au travail, pour t'en débarrasser, tu peux mettre tout du lit, ouais. Plonger au fond de tes ventrailles, ta voix te bat, il s'acharne.
T'as jamais su parler, tu peux te la raconter. Toujours t'approprier ce que d'autres accomplissent. C'est comme ça que t'as tué. Le peu d'amis qui te restaient, c'est sale, ouais. Puis au fond de toi si tu veux avancer. On réalise ses rêves face à ses associés. Non, t'es pas prêt d'être en paix. Si tu refuses de voir qui t'es, c'est sale. Vas-y, cherche. Tes ennemis sont pas si loin, non. Sont pas si loin, non. Chacun ses démons qui on meurt avec. Cherche. Tes ennemis sont pas si loin, non. Pourquoi ici et pas là-bas? Cette question te tiraille. T'as jamais voulu qu'un Ousmane vienne avec toutes ses femmes. T'es paniqué quand tu connais pas. Mieux vaut avant de tirer connaître son ennemi, ouais. Et tu sais pas où faut qu'il aille, mais tu sais qu'il faut qu'il t'aille.
Tu n'aimes personne d'ailleurs, tu t'aimes pas. T'aimes pas le changement, t'aimes pas l'autre, voilà ta théorie. C'est pourquoi je souris et ne relève pas. Quand je crois son regard rempli d'a priori, hey. Chasse les démons qui sommeillent en toi. S'il te plaît, réveille-toi, ta haine provoque tes insomnies. T'as pas encore trouvé la paix. Mais même pour toi j'ai du respect. Enfin je sais.
Cherche. Tes ennemis sont pas si loin, non. Sont pas si loin, non. Chacun ses démons qui on meurt avec. Cherche. Tes ennemis sont pas si loin, non. Cherche ton ennemi, mais il n'est pas si loin, non, non.
Ah, il veut de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide.
Ah,
il veut de l'aide, de l'aide, de l'aide, de l'aide.
Cherche, tes ennemis sont pas si loin, non. Sont pas si loin, non. Chacun ses démons, vit, on meurt avec. Cherche, tes ennemis sont pas si loin, non.
Fait sur les ondes de Marmite FM 88.4, 17h passé de 39 minutes, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. C'est l'émission qui vous parle de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs sur le 88.4, tous les mercredis de 17h à 18h, rediffusion le vendredi aux mêmes horaires et le samedi matin de 12h à 13h. Allez, tout de suite, on accueille Caroline pour son actu yvelinoise.
Bonjour Noraline, bonjour à tous. Oui, alors aujourd'hui, à la vue des prochaines élections départementales en mars 2021, je souhaitais faire un petit point sur notre département, les Yvelines, enfin, tout du moins sur son fonctionnement. Alors tout d'abord, quelques mots sur les élections départementales. À quoi servent-elles? Eh bien, auparavant, elles étaient désignées sous le terme d'élections cantonales. Et depuis la loi du 17 mai 2013, les élections départementales permettent d'élire les conseillers départementaux. Alors, les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans et forment l'assemblée qui dirige le département, c'est-à-dire le conseil départemental. Ce conseil a pour mission de régler, par ses délibérations, les affaires du département. En ce sens, il est en charge du service public et de son amélioration dans les domaines dont il a la compétence. Alors, les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton. Donc, un canton, c'est une division du département. Et chaque conseiller départemental qui est candidat à l'élection doit se présenter en binôme paritaire, donc composé d'un homme et d'une femme. Ceci depuis la loi du 17 mai 2013, donc depuis les premières élections en mars 2015. Pour notre département, donc les Yvelines, on compte 21 cantons. Il y a donc 42 conseillers départementaux, dont le président actuel, M. Pierre Bézier. Je vous l'ai dit plus haut, le conseil départemental a pour mission de régler par ses délibérations les affaires du département. Mais qu'est-ce qu'un département ? Eh bien, tout d'abord quelques chiffres. En France, actuellement, il y a 101 départements et 4108 conseillers départementaux. Donc, le département, il a été créé sous la période révolutionnaire afin de rapprocher les administrés de l'administration. Et aujourd'hui, le département, c'est une catégorie de collectivité territoriale. Donc une collectivité territoriale, c'est une personne morale de droit public, distincte de l'État, qui bénéficie à ce titre d'une autonomie juridique et patrimoniale. Donc je dis que c'est une catégorie de collectivité territoriale. Il y a trois niveaux de collectivité, les communes, les départements et les régions. Donc certaines collectivités bénéficient d'un statut particulier en métropole, comme par exemple la collectivité de Corse, ou alors en Outre-mer, donc avec les collectivités d'Outre-mer. Donc les collectivités territoriales s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi. Et pour les compétences du département, eh bien c'est la loi du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, qui a désigné le département comme chef de file en matière d'aide sociale, d'autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Et une autre loi, la loi du 7 août 2015, dite la loi NOTRe, elle applique désormais le principe de spécialisation des départements et des régions et elle a énuméré limitativement les compétences du département. Donc, il y a donc plusieurs domaines de compétences pour le département. Je vous en citer donc les principaux. Donc en matière de solidarité et de cohésion sociale, donc le département il agit pour l'enfance, notamment dans l'élaboration de l'aide sociale à l'enfance, dans la protection maternelle et infantile, dans l'adoption et dans le soutien aux familles en difficulté financière. Il agit aussi en faveur des personnes handicapées avec les politiques d'hébergement et d'insertion sociale et la prestation de compensation du handicap. Il agit aussi pour les personnes âgées dans la création et la gestion de maisons de retraite. Et vous connaissez sûrement cette prestation légale d'aide sociale, donc le RSA, le département gère le revenu de solidarité active dont le montant est fixé au niveau national. Dans le domaine de l'éducation, le département assure la construction, l'entretien et l'équipement des collèges. Il gère aussi les TOS, les TOS, les agents techniciens, ouvriers et de service. Pour ce qui est de l'aménagement et du transport, le département intervient principalement pour l'équipement rural, l'aménagement foncier, la gestion de l'eau, et de la voie rurale, donc en tenant compte des priorités définies par les communes. Et il agit aussi en faveur des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Et il a une action sur la gestion de la voirie départementale. Et c'est une gestion qui a été transférée à la région au 1er janvier 2017. Mais le département peut avoir matière dans la gestion de la voirie départementale, en ce sens qu'il a la possibilité de financer les itinéraires routiers d'intérêt régional et identifiés comme tels dans un schéma régional. Enfin, le département a également une compétence culturelle, c'est-à-dire dans la création et la gestion des bibliothèques de prêt, dans les services d'archives, pour les musées et la protection du patrimoine. Donc cette compétence culturelle est une compétence partagée entre elles, les communes, et les régions. Et cela vaut aussi pour les compétences en matière de sport, de tourisme, de promotion de langues régionales et d'éducation populaire. Donc voilà, j'ai fait un panorama assez large sur les élections départementales et le département. Donc vous voilà armé pour justement à l'approche des prochaines élections départementales, mais donc affaire à suivre.
Merci beaucoup Caroline, voilà, pour tous ces précieux conseils et puis pour voilà, maintenant pour celles et ceux qui font notamment de l'éducation civique, voilà, vous pouvez reprendre cette petite chronique sur le fonctionnement d'un département et voilà, ça vous fera peut-être une bonne note hein, en classe, qui sait. Allez, on va accueillir tout de suite Pierre Joannet pour sa minute conso. Cette semaine, Pierre nous parle de pensions alimentaires impayées et du dispositif de la CAF pour y répondre. Pierre Joannet.
La Minute Consommateur avec Pierre Joannet.
Vous avez des difficultés pour percevoir la pension alimentaire due par votre ex-conjoint. Savez-vous que la CAF peut servir d'intermédiaire afin d'en sécuriser le bon versement dans le contexte sanitaire et social particulièrement difficile pour les parents isolés ? Deux décrets parus au Journal officiel le 1er octobre 2020 précisent la mise en œuvre de cette intermédiation financière. Environ 30% des pensions alimentaires ne sont pas payées et le sont de manière irrégulière. La mise en place de ce service public des pensions alimentaires a pour but de protéger les familles monoparentales en situation de précarité et de simplifier le quotidien des parents séparés. C'est la loi de financement de la sécurité sociale 2020 qui a introduit le dispositif permettant le versement de pensions alimentaires par l'intermédiaire des caisses d'allocation familiale et de la mutualité sociale agricole. Ces caisses peuvent désormais collecter la pension auprès du parent désigné, puis la verser chaque mois à son ex-conjoint pour assurer les dépenses liées aux besoins de leurs enfants. Jusqu'alors, fixé uniquement sur décision du juge aux affaires familiales, en cas de violence conjugale, ce dispositif est élargi depuis le 1er octobre 2020 aux parents victimes d'impayés qui en font le signalement auprès de la CAF ou de la MSA. Il sera généralisé à compter du 1er janvier 2021 à tous les parents séparés concernés par le versement d'une pension alimentaire qui en feront la demande dès la fixation de la pension alimentaire ou bien quelle que soit l'ancienneté de leur séparation et même en l'absence de retard ou de défaut de versement des pensions. La demande se fait en ligne sur le site caf.fr ou celui de l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires ARIPA. Si la récupération de la pension alimentaire auprès du payeur prend du temps, la caisse pourra verser dans l'intervalle une allocation de soutien familial de 116 € par enfant. Enfin, dès 2021, les couples séparés bénéficieront d'un accompagnement renforcé par les CAF pour accomplir leur démarche.
Merci beaucoup Pierre Joannet donc de l'UFC Que Choisir pour ses précieux conseils dans sa minute conso. Marmite fait son actu, c'est déjà terminé. Oui, on finit un petit peu plus tôt que prévu. On devait recevoir normalement des représentants des enseignants dans le primaire et puis également dans le secondaire pour vous parler notamment de la situation qu'il y a, que ce soit dans les écoles maternelles, primaires, dans les collèges, dans les lycées, avec des difficultés évidemment. On en a parlé dans le flash d'actualité locale et les problèmes autour du protocole sanitaire qui est censé être renforcé mais qui n'est apparemment pas si renforcé que ça. Donc on essaiera de les recevoir. Là, ils étaient, voilà, sont certainement encore sur les mobilisations et difficile à joindre. Donc on essaiera de les recevoir, ou en tout cas de les avoir par téléphone à partir de la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est rediffusé le vendredi de 17h à 18h et le samedi de 12h à 13h. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau direct. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revues de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif. Nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.